Bonjour et bienvenue dans notre podcast des chèvres dans le Larzac, le podcast où l'on parle reconversion professionnelle au féminin. Chaque mois, nous donnons le micro à des femmes qui ne sont pas parties élever des chèvres dans le Larzac, mais qui ont donné un coup de volant sur une route bien tracée. Des femmes qui ont osé changer de métier, de voie, de vie. Quel a été leur déclic? Comment ont-elles sauté le pas et trouvé leur Larzac? Elles nous racontent ça ici.
Et si le sujet vous intéresse, vous pourrez retrouver plus de 70 témoignages de reconversion professionnelle sur notre blog deschèvresdanslelarzac.com ou notre Instagram. Merci beaucoup à notre partenaire, le magazine Rebondir, qui nous épaule et nous ouvre les portes de son studio. Et merci surtout à vous de nous écouter. Si ce podcast vous plaît, alors likez, commentez, partagez sur votre plateforme d'écoute pour que l'aventure puisse continuer.
Petit tour de table pour commencer. Je suis Caroline Vivant, ex-journaliste reconvertie dans la com, reconvertie dans l'entrepreneuriat et désormais aux manettes d'un site sur la conso responsable qui s'appelle lecabas.fr.
Et moi, je suis Florence Martin-Paulmier, ex-journaliste aussi, reconvertie dans les relations médias, puis dans la création de contenu éditorial en freelance.
Dans le studio avec nous, Christelle Simon du magazine Rebondir, que nous retrouverons en fin d'émission pour sa chronique « Trouve ton Larzac ». Aujourd'hui, elle nous donnera ses astuces pour identifier nos talents. Et oui, nous en avons tous. Et puis notre invitée du jour, Céline Morel, créatrice de la marque de jouets et accessoires éco-responsables pour enfants, Atelier Gabriel. Bonjour Céline.
Bonjour.
Bon, je me pince pour réaliser que nous enregistrons bien ce podcast. Donc, pour la petite histoire, nous avions rencontré Céline en mars dernier et nous avions papoté de ta vie d'avocate, du rythme infernal de travail, de la naissance de ta fille et de ton envie de changer de vie. Cette histoire, nous l'avons racontée sur notre compte Instagram des chèvres dans le Larzac, mais nous avions très envie de poursuivre cette conversation ici. 9 mois de confinement, de Covid et 1000 changements de date plus tard, nous voilà enfin dans ce studio devant nos micros.
Ouais, il était temps. Il était temps qu'on se retrouve avec toi, Céline. Donc Céline, en deux mots, tu as 35 ans, 3 enfants. Et après des études de droit et une jolie carrière d'avocate, tu as décidé de faire le grand switch et de créer ton entreprise, Atelier Gabriel, des jouets et objets pour enfants aussi éthiques que poétiques. Première question que l'on pose à tous nos invités, c'est un peu le rituel ici. Est-ce que tu peux nous pitcher Atelier Gabriel en 30 secondes chrono?
Ça marche. Alors, Atelier Gabriel, c'est une marque française engagée de jouets et accessoires de décoration. Nos engagements sont au cœur de l'ADN de l'entreprise. On s'est donné comme mission de repenser l'essentiel, ce qui est notre philosophie, et comme objectif de reconnecter les familles à la nature, de réveiller leur sens et de les inviter à expérimenter, rêver au travers de nos jouets et accessoires de décoration.
Merci. Donc on vous conseille fortement une petite balade sur le site d'Atelier Gabriel. Ça vous donnera des petites idées de cadeaux de Noël. Mais revenons à toi, Céline, et quelques années en arrière. Tu as travaillé pendant un moment comme avocate fiscaliste. Est-ce que tu peux nous parler de cette vie?
Oui, bien sûr. Effectivement, j'ai commencé ma carrière dans un cabinet américain qui s'appelle EY. En tant qu'avocat fiscaliste, j'y suis restée environ 5 ans avant de partir rejoindre un cabinet français dans lequel je suis restée aussi 5 ans, donc un peu moins de 10 ans de carrière d'avocat en tout. C'était des années très formatrices qui étaient un beau prolongement à mon parcours scolaire et universitaire. Ces cabinets d'avocat s'apparentent un peu au fonctionnement des cabinets de conseil, c'est très structuré, très normé. Il y a des grades tous les ans, grade 1, 2, 3, si je schématise, chaque grade correspond à un salaire. En gros, on est sur un petit tapis roulant, ça avance tout seul si on fait son petit travail comme il faut. Il y a beaucoup c'est très facile en fait de se laisser porter par ces cabinets. Donc je me suis laissée porter, j'ai joué le jeu. Il y a une course à la performance qui est assez bien menée dans ces cabinets et à laquelle j'ai joué pendant quelques années, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que j'étais un peu en train de m'épuiser dans cette course et que j'avais peut-être besoin d'autre chose.
Quand tu dis course à la performance, c'est quoi? C'était des horaires de dingue, du stress?
Oui, bah en fait, il y a ce côté step 1, step 2, step 3. Tous les ans, il faut gravir les étapes. On peut même les gravir plus vite que les autres. Donc, il y a le concept de performance qui est au cœur du système, vraiment, à tel point qu'on parle même de surperformance. Donc, on peut avoir des évaluations dans lesquelles on vous dit, c'est génial, tu as super surperformé. Grâce à ça, tu passes à l'étape, tu sautes une étape, quoi. Et c'est vrai qu'on se prend au jeu, on sort de l'école, ça reste un système très scolaire. C'est lucratif, plus on avance, plus on gagne bien sa vie, on est jeune. Donc tout ça, c'est très chouette. Mais effectivement, le revers de la médaille, c'est qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup d'horaires. Les horaires sont à rallonge. On peut travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sans problème. Les seules limites qui existent, c'est celles qu'on se fixe, en fait. En tant que personne, c'est pas le cabinet qui va vous dire « attention, tu travailles trop ». Alors, ils mettent des systèmes en place pour checker un petit peu parce qu'ils ont quand même l'inspection du travail qui les surveille, mais globalement, la seule limite qu'on peut se mettre, c'est la nôtre, et on se la met pas quand on est jeune. On a envie de réussir. Puis moi, j'ai été éduquée dans cette culture de la performance et de la méritocratie au travail, donc j'étais un super petit soldat pour ce genre de structure, et effectivement, ça marche un temps. Alors, il y a des gens qui arrivent à faire toute leur carrière là-dedans, mais moi, je me suis vraiment épuisée. C'était trop contraignant.
Et comment t'as compris que c'était trop, justement ?
En fait, j'ai eu du mal à le comprendre. J'ai eu pas mal de signaux. En fait, quand j'ai changé de cabinet, je me suis un peu perdue. C'est pas si évident de changer de structure quand on a déjà 5 ans d'expérience, de retrouver ses marques. C'est pas toujours facile. Et surtout, reprendre cette fameuse course, en fait, pour remonter dans un peloton qui n'est pas celui dans lequel on a grandi, c'était pas évident. Donc, je me suis un petit peu perdue dans ce deuxième cabinet. J'ai eu du mal à trouver mes marques. Et assez vite, en fait, mon corps en a pâti. Donc, j'ai eu très grosse fatigue. J'avais des problèmes de souffle. Moi qui ai l'habitude de courir et de faire de la course à pied et de la natation, j'y arrivais plus. J'étais extrêmement fatiguée. Et en fait, ça a duré très longtemps avant que je finisse par me dire « il faut que j'aille voir mon médecin, je suis incapable de me lever le matin, ça ne va pas ». Et c'est lui qui m'a dit « en fait, votre corps est à bout, il faut arrêter ».
Et c'est lui, c'est le médecin en fait, qui t'a dit d'essayer d'aller voir ailleurs si une autre vie était possible ?
Oui, alors c'est à la fois c'est dingue, à la fois je pense que c'était indispensable parce que je pense que je l'ai entendu de personne d'autre, même d'un médecin d'ailleurs, j'ai mis du temps à l'entendre, mais oui, assez vite, on m'a diagnostiqué une maladie de la thyroïde qui est notamment liée à un facteur de stress mal géré, en fait, parce que certains peuvent subir autant de stress que ce que j'ai subi, mais mieux le gérer que moi. Moi, je n'ai pas réussi à bien le gérer. Et du coup, mon corps a pallié à tout ça, et il en a souffert. Et du coup, ça a déclenché un dérèglement hormonal assez important. Et mon médecin m'a dit, vous êtes sur une voie qui n'est pas, sur laquelle on ne peut pas revenir en arrière. Donc là, le seul moyen de stopper ça, c'est d'avoir une vraie rupture dans votre façon de vivre. Et la vraie rupture aujourd'hui, quand on habite à Paris, qu'on a moins de 30 ans et qu'on est une avocate qui a plein d'ambitions, c'est de revoir son ambition à la baisse et d'accepter de se poser et de réfléchir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, clairement.
Merci de cette référence à l'herbe plus verte ailleurs, qu'on apprécie. Et alors là, au moment où tu apprivoises ce que vient de te dire ce médecin-là, ça met du temps à se digérer, c'est le déclic immédiat, genre ok, tu claques l'ADEME le lendemain, comment ça se passe ?
Non, ça met énormément de temps, en fait, on est assez conditionné, même avant 30 ans. Moi j'ai eu une éducation assez forte en termes de principes. Ma mère avait beaucoup de principes, mes grands-parents avaient beaucoup de principes, et je les ai tous absorbés comme une belle éponge. Et du coup, il était hors de question d'arrêter. Enfin, pour moi, c'était un peu un signe de faiblesse. C'était clairement pas envisageable. Donc non, dans les premiers temps, quand mon médecin m'a dit ça, j'ai rigolé. Je lui ai dit, bien sûr, oui, tout à fait, je vais arrêter. J'ai fait 10 ans d'études, 10 ans de cabinet, et là, vous voulez que j'arrête et que je fasse quoi ? Je sais rien faire d'autre. Enfin, moi, j'avais fait des études de droit. Puis en fait, j'ai jamais réfléchi à ce que je voulais faire de ma vie. Enfin, je suis rentrée comme plein de gens à la fac parce que un jour, je m'étais dit, tiens, le métier d'avocat, c'est chouette, c'est joli. on défend la veuve et l'orphelin. C'est un beau métier, voilà. Mais comme j'aurais pu faire médecin, j'avais été meilleure en bio ou en maths. Et puis, je me suis retrouvée en fiscalité parce qu'au final, j'avais plus d'affinité avec cette matière. Mais voilà, je suis un peu arrivée là par hasard, au fond. Et du coup, quand on me dit qu'il faut changer de vie, je me dis, mais moi, je ne sais rien faire. Enfin, donc, et puis, c'était... C'est toute une construction derrière, parce qu'avocat, c'est un statut, c'est une manière de penser, c'est un état d'esprit, et on est, mine de rien, un petit peu enfermé là-dedans. Et quand on a fait 10 ans d'études et 10 ans de cabinet, bah, tout mon environnement n'était constitué que d'avocats, que de gens qui travaillaient dans la banque, dans la finance. J'ai aucun exemple de vie dans laquelle je me serais sentie mieux et où l'herbe aurait été effectivement plus verte. Enfin, on était tous dans le même panier, globalement. Donc j'ai eu du mal à l'entendre et surtout je me sentais incapable d'en parler autour de moi, que ce soit l'homme qui partageait ma vie, à mes parents, à mes collègues. Enfin, c'est des métiers où c'est quand même très compliqué d'avouer qu'on a une faiblesse physique et que là il faut qu'on se calme un petit peu. Donc non, ça a été très long et en fait c'est ma grossesse qui m'a fait prendre conscience de l'importance de ce qui était en train de se passer à l'intérieur de mon corps et des conséquences qui n'étaient pas bonnes. Et c'est vraiment quand je suis tombée enceinte que là, je me suis dit, mais en fait, attends, on ne parle pas juste de toi, on parle aussi du bébé qui est à l'intérieur de toi. Et là, là, pour le coup, je crois que j'ai compris. Et j'ai eu plus de courage pour affronter l'idée de changer de vie.
Et concrètement, comment ça s'est passé? T'as quitté le cabinet, t'as mis encore du temps à réfléchir ou t'as cherché ce que tu voulais faire avant d'en partir?
Non, alors première étape quand même, c'est de se dire, ok, là je suis enceinte, j'attends une fille, il faut que je m'en occupe dès ces premiers mois en fait à l'intérieur de mon ventre. Donc je vais déjà commencer par écouter mon médecin, ce que honnêtement je faisais pas très bien. Jusqu'à présent je prenais le traitement, je faisais une ou deux séances de sophro qui me conseillait, mais... Entre deux rendez-vous, j'arrivais avec le téléphone, je repartais avec le téléphone. Enfin, ça n'avait aucun intérêt, ça ne marchait pas. Enfin, ça nécessite de se mettre dans un état d'esprit pour que ça fonctionne. Donc moi, ça ne marchait pas. Donc là, je me suis dit, ok, on va commencer par vraiment écouter le médecin. Donc je suis allée un peu plus au bout de tous ses conseils. Et surtout, j'ai accepté les arrêts maladie qu'il me demandait de prendre depuis un petit moment. C'était plus facile de les faire passer sur le dos de la grossesse, hein, ce qui est un peu bête. Mais au fond, je me sentais plus légitime que d'aller voir mes supérieurs et de leur dire... Mon corps est un petit peu fatigué, s'il vous plaît, laissez-moi me reposer. J'aurais jamais osé avant. Et là, j'ai osé pour ma fille. Mais j'ai juste osé faire ça. En fait, la première étape, ça a été de dire, ok, je prends du temps pour moi et je me soigne. J'ai accouché. Ma fille, heureusement, n'avait rien parce que du coup, c'était une grossesse un peu compliquée, très suivie. Et je suis quand même retournée travailler. Au bout du congé mat, j'ai déposé ma fille à la crèche et j'ai repris pendant quelques mois le rythme effréné. Et il m'a fallu peut-être 2 mois ou 3 mois de reprise de travail après le congé mat pour là avoir vraiment le déclic et de me dire bon, en fait, là c'est vraiment plus possible, t'es en train de faire n'importe quoi.
Est-ce que c'était quoi justement ce déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un jour en particulier où tu t'es dit ça?
Oui, il y a eu une matinée en particulier. Je déposais ma fille, c'était moi qui la déposais à la crèche le matin. Et comme tous les matins, en fait, les avocats d'affaires, on travaille avec la France et l'étranger. Donc, au-delà du fait qu'il y a une amplitude horaire de travail qui est très large et qu'on peut recevoir des mails à n'importe quelle heure, parce que les gens travaillent à n'importe quelle heure, on a aussi ce côté où, quand on travaille avec les États-Unis ou l'Asie, les mails arrivent à des heures où en France, on ne travaille plus. Donc, au réveil, il y a tout le temps des tas de mails à lire. Et en fait, je me réveillais, je donnais le sein, j'avais mon portable greffé dans la main et je l'habillais, j'avais mon téléphone, parfois j'avais les écouteurs, j'étais déjà en conf call en train de la préparer. Et il y a un matin où, après avoir enchaîné tout ça pendant 1 heure avec elle, je sors dehors, on doit être au mois de mars, il fait froid, je l'emmène à la crèche, je la dépose et là je prends conscience en l'ayant laissée que ça fait 2 heures ou 3 heures qu'elle est debout et qu'en fait je n'ai rien fait avec elle. Je crois même pas avoir pris le temps 3 secondes de la regarder dans le blanc des yeux, de faire un... J'étais là sans être là, en fait. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Je suis très influencée par mes parents et par mes grands-parents. Je crois beaucoup au rôle de modèle que je voulais la famille au-dessus de nous. Et là, je me suis vraiment dit, mais attends, t'es mère, en fait. Et t'es mère, t'es le modèle de ta fille, mais qu'est-ce que tu fais? Là, je me suis dit, mais pas une seule seconde, je lui souhaite ça, en fait, à ma fille. Moi, je lui souhaite qu'elle profite de ses gamins entre 8 et... entre 6 et 8 plutôt, et qu'après, elle prenne son rôle de femme entrepreneur ou autre. Mais en tout cas, il faut qu'elle sache consacrer du temps à ses enfants. C'est primordial, quoi. Et là, vraiment, je me suis pris une claque. Je me suis dit, plus jamais, quoi. Je veux plus faire ça.
Et là, donc là, c'est la prise de conscience. Mais comment, du coup, enfin, une fois que t'as eu conscience de ça, qu'est-ce que tu t'es dit? Parce que du coup, t'as quand même ton quotidien, ton boulot qui t'attend. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah là, j'ai tout qui revient, en fait, un peu. C'est comme l'électrochoc où, d'un seul coup, on a toutes les infos qu'on avait entendues, mais qu'on avait mises de côté, qui ressurgissent et où je me dis, mais en fait, le médecin m'a dit ça. Mes parents, même s'ils m'ont donné ces valeurs-là, ils m'ont jamais dit, mets-toi la tête dans le mur et t'occupe pas de tes gamins. Enfin, ça n'a jamais fait partie de mon éducation. Donc, il y a un moment où j'ai pris un peu de recul sur tout ça et je me suis dit, mais en fait... il faut maintenant que tu prennes ton destin en main et que tu prennes ton courage à deux mains pour l'annoncer. Et du coup, là, pour le coup, comme je suis un peu... je me connais bien et je sais que c'est des décisions qui sont compliquées pour moi. J'en ai parlé tout de suite à mon mari, tout de suite à mes parents et tout de suite dans mon boulot. Histoire de me dire, voilà, c'est dit, je suis coincée.
Je ne reviendrai pas en arrière.
Voilà.
Et du coup, c'était quoi leur réaction lancé, que tu appréhendais un petit peu? Qu'est-ce qu'ils ont dit?
Alors, au boulot, on m'a rionné, hein, clairement, parce que ce n'est pas un truc qui se fait dans les cabinets d'avocats. Enfin, au mieux, on annonce qu'on part en entreprise pour chercher un rythme un peu plus calme, mais on n'annonce pas qu'on change de vie pour créer sa boîte. Voilà, c'est... Enfin, bon. Donc, clairement, là, j'ai pas eu un accueil très chaleureux. En revanche, mon mari était un peu perdu, mais parce que on s'est rencontrés, on travaillait dans le même cabinet. Il m'a toujours connue comme ça. Donc, c'est quand même une grosse partie de moi qui partait, en fait, quand je lui disais « je vais arrêter ce métier ». Donc, il était un peu perdu, parce qu'au fond, il m'avait jamais vu faire autre chose. Il n'était pas non plus... Ce n'était pas des années qu'il réfléchissait à ce que je pouvais faire. Donc un peu paumé, mais en même temps, très en support, parce qu'il a été avec moi pendant la grossesse. Il est venu avec moi chez le médecin plein de fois. Il savait, en fait, que c'était important pour moi. Donc, il m'a tout de suite dit « je ne sais pas trop bien où on va, mais on va y aller, quoi. Vas-y ».
Ouais, mais ce qui est quand même fou, c'est de t'entendre dire qu'il y avait une partie de toi qui s'en allait avec ça. C'est fou comme finalement le travail prend une place tellement importante dans la vie que c'est comme si on te coupait une partie, alors que le travail devrait rester un travail, quoi.
Enfin, ouais, c'est vrai, mais en fait, quand on se rencontre, nous on s'est rencontrés, on travaillait déjà tous les deux, on travaillait à la base 5 jours sur 7, mais c'était plus que ça. À part ça, on avait notre vie de famille et quelques amis, mais c'est vrai qu'on n'avait pas encore pris le temps de beaucoup voyager parce que on n'avait pas le temps. Enfin, donc oui, je pense que quand même dans sa tête à ce moment-là, et moi dans la mienne aussi, l'avocate prenait une énorme part.
Et alors, qu'est-ce que tu as réussi à mettre à la place de cette part d'avocate? Je crois que t'as quand même plutôt recréé des très belles choses, une entreprise qui n'avait rien à voir quand même avec le droit et la fiscalité. Comment t'en es arrivée là?
Alors, en fait, c'est un cheminement un petit peu en même temps parallèle à tout ça et en même temps un petit peu à côté. Quand j'ai donc accepté de me faire arrêter pendant ma grossesse, je me suis retrouvée du jour au lendemain sans travail. Ce qui ne m'était pas arrivé depuis 10 ans, enfin pas 8 peut-être, en me disant mais comment je vais occuper mes journées. En plus, j'avais pas de problème particulier avec la grossesse, donc je pouvais bouger, j'étais hyper en forme, tout allait bien. Donc le médecin m'avait juste dit profitez-en pour vous reposer, c'est important. Et je disais, mais moi je sais pas faire. Donc je réfléchissais à ce que je pouvais faire, et puis assez vite je me suis dit tiens, en fait il faut que je m'occupe l'esprit, parce que sinon j'ai tendance un peu à ruminer quand j'ai pas l'esprit occupé. Et je me suis rappelé que quand j'étais plus jeune, j'avais bricolé des choses chez ma grand-mère pendant toute une semaine de vacances et que j'avais adoré. Donc je me suis dit tiens, je vais faire ça, je vais aller chiner des meubles et puis je vais les retaper. Et en fait, ça a commencé avec une commode que j'ai achetée en me disant je vais la transformer en table à langer pour ma fille, ce sera parfait.
Donc j'ai pris du temps pour la chiner, je suis allée chercher la peinture, je l'ai retapée, j'ai rajouté un angle pour en faire un meuble d'angle, etc. Et je me suis éclatée. Et donc ça a commencé avec ça. Ensuite j'ai fait une arche d'éveil. Donc ça m'a, voilà, ça a commencé comme ça pendant le congé mat. Ça a été mis de côté pendant les quelques mois où j'ai repris mon activité. Et puis quand j'ai vraiment eu ce déclic en me disant il faut que je fasse autre chose, bah c'est un peu revenu tout de suite en me disant bah en fait je me suis amusée à faire ça, c'était génial, j'ai adoré. Et en parallèle, j'avais cherché beaucoup de, comme toutes les mamans en congé mat, j'avais cherché ce que je pouvais acheter pour ma fille, pour la chambre, pour les vêtements, pour les biberons. Et pour la première fois de ma vie, je me suis intéressée à ce qu'il y avait sur l'étiquette, ce que je n'avais honnêtement jamais fait. Mais vraiment jamais. Je commençais doucement sur l'alimentation à faire un petit peu attention, mais je faisais pas du tout partie des gens qui étaient concernés par une consommation responsable. Et là, vraiment, ça, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est arrivé à moi. Et là, j'ai été un petit peu effarée, parce que, alors, en plus, ayant ce bagage juridique, on sait lire, hein, donc on va jusqu'en bas, on lit les petits caractères, on comprend les tournures de forme qui permettent de se baquer, mais qui ne sont pas très claires. Et assez vite, je me suis rendu compte que, en fait, dans l'univers de l'enfant, bah, le Made in France, c'était plutôt de la com que de la réalité, et que le côté responsable, c'était aussi de la com, parce qu'en fait, la plupart des marques, alors notamment moi, je m'intéressais au bois, se servent des labels de forêt gérée durablement pour dire que leur bois, il est top. Mais en fait, ça veut tout et rien dire. Alors, c'est mieux qu'un bois qu'on a abattu sauvagement dans un endroit où on avait besoin de garder de la forêt. Mais globalement, c'est pas suffisant, à mon sens, en termes d'engagement. Et donc là, je me suis dit, en fait... mon envie de bricoler, toucher au bois, plus ce petit trou dans la raquette que j'avais repéré sur le marché, c'est un peu fait tilt, quoi. Je me suis dit, il y a peut-être de la place pour moi.
Et donc là, tu tiens un concept. Et comment tu passes de ce concept à ta boîte? Enfin, qu'est-ce que tu as mis en œuvre en premier?
Eh bien, c'est un peu long, ça, en fait. Parce que, en fait, il y a ceux qui ont des idées révolutionnaires hyper high-tech qui lancent des applis en deux secondes. Puis il y a ceux qui se disent juste, il y a un trou dans la raquette, tiens, si je bricolais du bois. Et là, du coup, c'est long. Et en fait, j'ai commencé, et d'ailleurs, ça m'a vachement aidée, par me dire, il faut que je structure mes journées. Je ne peux pas rester à la maison pour travailler. C'est un truc que je n'ai jamais trop su faire. J'avais besoin de retrouver un rythme un peu quotidien. Du coup, je me suis inscrite sur Internet, sur des plateformes pour louer des espaces de coworking. Et par hasard, je suis arrivée dans un coworking qui n'était pas très loin de chez moi, qui avait, en plus de l'espace de coworking, un atelier partagé, donc un Fab Lab. Et là, je suis tombée des nues, parce que alors déjà, le coworking, c'était un truc qui me paraissait très étranger. Je connaissais à peine le concept. Et donc, j'arrive dans ces endroits où il y a des grandes tables, il y a du café filtre au milieu, tout le monde ramène sa tasse. Enfin, j'avais jamais connu ça. Et en plus, je vois ces ateliers partagés au fond de la cour. Là, mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et là, je vois, à mon grand bonheur, un atelier de menuisier. Il y avait des ateliers plus technologiques. Il y avait de l'imprimante 3D, il y avait de l'impression textile, et même des machines à coudre. Enfin voilà, il y avait plein de choses. Et là, je me dis, mais c'est le paradis. C'est trop bien. Et du coup, en plus, les fondateurs étaient hyper sympas. On a vachement sympathisé. Ils s'étaient lancés il n'y a pas très longtemps. C'était eux aussi des reconvertis. Et du coup, je suis restée un an. Je travaillais à moitié sur l'espace coworking pour travailler sur mon projet, et à la fois dans les ateliers où je me formais à la menuiserie traditionnelle et puis aux outils numériques. Je me suis formée sur les logiciels de dessin, etc. Enfin,
Et c'est toi qui as réalisé les prototypes de tes cabanes? Parce qu'il faut quand même que tu réexpliques peut-être un peu plus précisément ce que c'est Atelier Gabriel.
Oui, bah c'est, alors en fait, le produit phare, c'est la maison de poupée qu'on a voulu réinventer. Je voulais un peu la démocratiser et la sortir du côté petite fille, maison victorienne avec son beau mobilier. Je voulais l'amener un peu dans la nature, un côté un peu plus Robinson, un peu plus... garçon-fille, sans âge, je vous laisse vraiment revisiter la maison de poupée. Et du coup, effectivement, j'ai commencé en me disant, et ça c'est pareil, ça vient de ma formation et de mon métier d'avant, mais je ne sais pas déléguer des choses que je ne sais pas faire. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, il faut que j'apprenne. Je ne peux pas appeler un artisan dans les Vosges ou dans le Jura pour lui dire, faites-moi ci, alors que je ne sais pas de quoi je parle. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, hop, on y va. On va apprendre à dessiner et on va se faire les premiers tests. Donc, j'ai fait les premiers dessins toute seule. J'ai fait les premiers protos toute seule. J'ai fait beaucoup, beaucoup de bêtises. C'était assez moche les premières fois. Je pense que mon mari s'en souviendra toute sa vie du nombre de fois où je rentrais les larmes aux yeux en lui disant, mais mon assemblage, il ne marche pas. Je me suis trompée de diamètre. Enfin bon, j'arrivais pas à faire les bons calculs, mais du coup j'ai énormément appris et ça m'a effectivement permis de peaufiner le projet parce que en fait j'avais cette envie de faire des jouets et du petit mobilier pour enfants, mais je savais pas trop bien vers où je voulais aller et quels étaient les premiers produits que je voulais proposer. Et c'est en partant de cette maison de poupée que, au fur et à mesure, bah ce petit bloc que j'avais commencé par faire carré parce que bah il faut apprendre à faire un carré avant de faire des choses plus complexes, bah est devenu quelque chose de plus ouvert sur l'extérieur. On a rajouté des pilotis, enfin voilà, on a mis un peu plus de nature à l'intérieur.
Et aujourd'hui, maintenant, c'est plus toi, j'imagine, qui fabrique. Tu as trouvé cet artisan que tu cherchais et qui fabrique dans les règles de l'art.
Oui, exactement. Ça a été très, très compliqué, mais on a fini par trouver. Et d'ailleurs, je n'ai pas trouvé toute seule. J'ai fini par contacter des gens sur Instagram qui travaillaient le bois en leur disant... Elle a l'air complètement désespérée. Est-ce que vous pourriez partager avec moi les coordonnées de vos artisans? Et il y a une marque hyper sympa, et d'ailleurs, je pense que c'est ma meilleure copine de l'entrepreneuriat qui devra m'écouter certainement sur ce podcast. Elle se reconnaîtra, qui m'a dit, mais bien sûr, pas de problème, et qui m'a donné les coordonnées de son artisan dans les Vosges.
Génial. Et donc aujourd'hui, la gamme est plus étendue que la maison de poupée?
Oui, alors aujourd'hui, j'ai fait trois collections, une collection d'éveil, une collection de jeux et une collection de déco et d'accessoires. Donc les cabanes se retrouvent dans la collection de jeux parce qu'elles sont certifiées conformes aux normes pour les enfants de plus de 3 ans. Donc voilà, on les a. Sinon, c'est question de sécurité. Et après, il y a effectivement une gamme. Donc, cette gamme-là de jeux, elle est assez développée. Aujourd'hui, il y a 4 grosses cabanes et puis il y a pas mal de petites figurines qu'on peut acheter de manière séparée. Il n'y a que du bois, en revanche. Donc, les petits bonhommes sont en bois. Et la gamme éveil est un petit peu plus restreinte. On a quelques hochets de dentition, quelques petits accessoires de déco aussi pour les cadeaux de naissance. Mais les produits phares restent les cabanes. Et pour le coup, là... mon rêve d'enfant se réalise. Enfin, j'ai des idées à foison. Cette gamme, elle va se développer. Il y a plein de choses qui vont arriver. Ça va être chouette.
Et du coup, tous ces objets, tu les vends sur ton site? Et est-ce que tu les vends autre part pour qu'on puisse... pour que les gens puissent savoir?
Oui, alors je les vends... Quasi exclusivement sur le site. Enfin, j'ai très peu de revendeurs encore aujourd'hui. J'ai 3 boutiques que j'ai signées seulement parce que ça fait partie des déconvenues de 2020. Et voilà, ça, c'est un peu compliqué la distribution. Mais on peut me retrouver donc sur le site ou sinon dans le 11e chez ME Concept Store, à Pantin chez We Love East et là tout récemment à Deauville dans un petit magasin qui s'appelle Le Joli Shop.
D'accord. Génial, super. Et là, tu parlais de 2020, donc on peut difficilement parler de 2020 sans parler du confinement. Pour une entrepreneuse qui se lance, c'est évidemment compliqué. Comment tu l'as vécu, toi?
Ma société, elle ne l'a pas hyper bien vécu, honnêtement. Parce qu'en fait, en 2020, j'avais tiré des plans sur la comète. Notamment, je devais participer à des salons professionnels, maisons et objets et playtime, dans lesquels... j'avais prévu de prendre un stand pour présenter mes produits et donc rencontrer des distributeurs du monde entier. Donc en fonction de ça, j'avais travaillé avec mon artisan pour faire des séries assez importantes. Enfin, on avait un prévisionnel de chiffre d'affaires qui était en conséquence. Donc les salons ont été annulés, donc ça a été la première douche. Et deuxième douche, c'est la fermeture des magasins de jouets au mois d'octobre et novembre. Bon, ça clairement... ça n'aide pas
non, c'est sûr.
Pour écouler ces stocks. Mais après, ça m'a aussi permis de passer plus de temps sur les réseaux et sur Instagram et de faire connaître la marque autrement. Enfin, je trouve qu'il y a eu quand même un relais pendant cette période de confinement. Internet a joué son rôle et pour le coup, c'était chouette. Enfin, il y a eu un vrai rebond là-dessus.
Et du coup, si on doit faire un petit peu le bilan aujourd'hui de cette reconversion, qu'est-ce que tu mettrais dans les plus et qu'est-ce que tu mettrais dans les moins?
Dans les plus, je dirais, je pense que la plupart des entrepreneurs, je dirais la liberté. Clairement, alors pas forcément la liberté d'organisation, parce que je fais pas partie de celles qui sont très à l'aise encore avec ça. Je me sens débordée de partout, la vie pro impacte la vie perso. Enfin, j'ai du mal à cloisonner encore, mais en revanche, je trouve que je me suis rendu compte qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, quoi, en fait. Hein. On peut passer d'avocat à menuisier, à entrepreneur, à tout ce qu'on veut. Et je me prends très souvent à rêver de faire des trucs complètement différents dans 10 ans ou dans 20 ans. Donc ça, je trouve que c'est hyper chouette, hein, d'avoir découvert cette liberté. Pour moi, c'est le vrai plus. Et après, les moins, je dirais globalement... C'est l'argent. Dans un premier temps, il faut apprendre à perdre son indépendance financière dans un couple. Moi, j'avais pas assez d'argent de côté pour à la fois mettre dans ma société et à la fois subvenir à mes besoins personnels au quotidien. Donc aujourd'hui, j'ai un mari qui me soutient, je le remercie tous les jours, mais pour moi, c'est très très difficile d'être sous cette dépendance là et ça, j'ai vraiment hâte que ça se termine, en revanche.
On comprend.
Tu nous tiendras au courant.
Ouais.
C'est maintenant l'heure du questionnaire spécial bergerie. Je ne sais pas si tu l'as préparé, si tu as travaillé en écoutant les premiers épisodes. Mais donc, en une phrase, as-tu trouvé ton Larzac ?
Oui, j'ai trouvé mon Larzac. Et du coup, ça va être un peu redondant avec ce qu'on vient de dire, mais ce n'est pas forcément Atelier Gabriel, c'est la liberté. C'est vraiment de se dire, le champ des possibles est infini. On peut faire tout ce qu'on veut. J'aurai peut-être 5 ans de vie professionnelle et je suis hyper heureuse. Et cette liberté, elle n'est pas que pour moi. Elle est aussi dans l'éducation que je vais donner à mes enfants. Et je suis ravie de l'avoir découverte parce que je pense que je serais restée avocate. J'aurais invité mes enfants pour faire des études de médecin ou d'avocat ou machin. Là, ils auront un petit peu plus de liberté de la part de leur maman.
Qu'est-ce qui te rend chèvre dans ta vie d'aujourd'hui ?
Toute cette communication que je trouve un peu scandaleuse, des marques qui surfent sur le bio, l'éco-responsable et le made in France, alors que c'est pas vrai. Je trouve que, enfin, je comprends le rôle de la communication et en tant que marque, j'ai découvert à quel point c'est un média hyper fort. En revanche, ce que je comprends pas, c'est comment ces gens dorment sur leurs deux oreilles. Enfin, la planète et la France a besoin de gens qui s'investissent et de marques qui s'engagent. Et pour moi, c'est le contraire de l'engagement de faire ça. Et ça me révolte, vraiment.
Et est-ce que dans ta vie d'aujourd'hui, l'herbe est donc plus verte que dans ta vie d'avant ?
Définitivement. Elle est hyper verte, elle est hyper haute, elle est pleine de marguerites. Elle est trop bien. Le sol est un petit peu mouvant, la terre est un peu trop molle encore pour que je me sente hyper stable, mais l'herbe est bien plus verte.
Bon, ça fait plaisir de terminer sur ça. Donc, on va passer à la chronique de Christelle Simon, Trouve ton Larzac. Donc, Christelle, aujourd'hui, tu voulais nous parler de talent.
Oui, alors nous avons tous des talents qui sont parfois bien exploités, mais ils peuvent aussi être bien cachés. Alors, ils sont pourvoyeurs de sens, de plaisir, il serait donc dommage de les négliger. Alors, pour vous aider à les identifier, parce que c'est pas toujours évident, et puis surtout on peut en douter, je vous donne 2 petites astuces. Alors, la première, c'est de lancer votre mini audit social. Alors, vous sélectionnez 5 personnes de votre entourage, familial, amical ou professionnel, et vous leur posez cette question. Si vous deviez compter sur moi pour quelque chose d'important, qu'est-ce que ce serait ? Alors, la relation doit être assez solide pour permettre à la fois un regard authentique et constructif et ancienne pour offrir le plus d'exemples concrets possibles. En général, ces personnes feront référence soit à une sensibilité particulière que vous avez, soit à une de vos compétences professionnelles. Nos proches sont vraiment un bon miroir pour nous, c'est donc bien de les solliciter. La deuxième petite astuce, c'est d'écrire votre propre slogan. Alors, pour cela, vous faites une liste de 10 réussites dans votre vie, dans tous les domaines, pro ou perso, de la naissance à aujourd'hui. Vous choisissez des grandes ou des plus petites réussites. Et en face de chacune d'elles, vous faites la liste des qualités que vous avez dû déployer pour y parvenir. Ces qualités sont en fait le reflet de votre vision du monde. C'est les piliers sur lesquels vous vous êtes toujours appuyé. Vous pouvez alors écrire votre slogan avec ces qualités. En fait, cela revient à formuler le meilleur de vous. Voilà pour ces 2 petites astuces. Et une fois donc identifiés, ces talents pourront être utilisés pour vos nouveaux défis.
Merci Christelle. Alors, on a hâte d'avoir ton slogan, hein, Christelle, le tien aussi Céline, Florence. Chacun reviendra la prochaine fois avec son slogan écrit et rédigé. Voilà.
Merci. Et merci Céline de nous avoir partagé cette histoire, ta nouvelle vie d'entrepreneuse avec ses hauts, ses bas, ses stress, ses joies. On va surtout retenir les joies. Et vous pouvez retrouver le parcours de Céline donc, sur notre blog deschèvresdanslelarzac.com et toutes les infos sur Atelier Gabriel sur la page du podcast. Et si vous cherchez des jolis cadeaux de Noël pour gâter les enfants et gâter la planète, foncez faire un tour sur le site d'Atelier Gabriel.
Merci à vous tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. On espère que l'histoire de Céline vous a inspiré. Et si vous avez aimé, donc likez, commentez, partagez. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, nous sommes toujours ravis de vous retrouver, de discuter avec vous sur Instagram des chefs dans le Larzac.
Merci.
Merci.